إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا قيامنا وصيامنا. فبحمد الله عز وجل نواصل بعون الله سبحانه وتعالى قراءتنا لرسالة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألا وهي أصول في التفسير. وبحمد الله عز وجل قرأنا المقدمة، وكذلك يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في القرآن الكريم، وذكرنا كذلك تعريف القرآن، وقلنا إن القرآن كلام الله جل وعلا المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. Donc on avait évoqué dans les cours précédents notamment l'introduction et aussi la définition du noble Coran. La définition du noble Coran. Et on avait dit que le Coran c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala descendue sur son messager et le sceau de ses prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il commence par la surat al-Fatiha et il se clôture par la surat al-Nas. وذكرنا أيضا أن كلام الله صفة اختيارية يتكلم متى شاء ليس كلامه صفة له في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك كما تقول بعض الطوائف بل هو كلما أراد أن يتكلم تكلم. نعم. Il avait dit aussi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un attribut, un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ikhtiyariya, c'est-à-dire de choix, qu'Allah jalla wa ala donc possède ou exécute quand il le veut et comme il le veut. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est un attribut qu'Allah jalla wa ala exécute et accomplit quand il le veut. Il parle quand il le veut. Hein, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas une parole, donc comme le disent certaines sectes parmi les sectes de l'islam qui disent que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas prononcé. Mais c'est une parole qui existe chez Allah Jalla wa'ala depuis la nuit des temps. Depuis qu'Allah Allah Jalla wa'ala est le début sans précédent, bien sûr. Donc cette parole-là, elle est chez Allah depuis toujours. Elle est chez Allah depuis toujours comme ils l'ont prétendu. Et ce n'est pas le cas. Allah subhanahu wa ta'ala a certes l'attribut de la parole depuis toujours, la parole de façon générale. On ne parle pas du Coran ici, on parle de la parole de façon générale. Il est évident et clair que Allah Jalla wa Ala possède l'attribut de la parole depuis toujours et qui ne s'en sépare jamais. Mais concernant la parole d'Allah du Coran, la parole spécifique, particulière, dont on parle ici, qui est le Coran, eh bien c'est un attribut de choix. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala a prononcé ces versets-là à des moments particuliers et des moments précis, et a prononcé des versets à certains moments et d'autres versets à d'autres moments, selon les événements, selon les causes et les dates et la chronologie de la descente de ces versets-là, comme on l'a vu la semaine dernière. Alhamdulillah. طيب فنواصل فيقول إذن الله جل وعلا لم يزل متكلما إن شاء ومتى شاء طيب يتكلم إن شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. Donc, en résumé, par rapport à la parole d'Allah, on dit qu'Allah Jalla wa Ala a toujours possédé l'attribut de la parole, mais qu'Allah Jalla wa Ala, il parle s'il le veut, quand il le veut, de la façon dont il veut, et qui lui est propre. Et Allah Jalla wa Ala, il parle avec un son qui est audible et qui est entendu, hein, comme il a fait entendre sa parole à Jibril alayhi salam. Mais malgré ça, on a dit que l'attribut de la parole, de façon générale, a toujours existé, depuis toujours, en Allah Jalla wa Ala. Naam, même si certaines paroles et certains sons ont été prononcés et ont été émis à certains moments et pas à d'autres. Et non depuis toujours, comme le diraient certaines sectes parmi les sectes de l'islam. Et cela donc, cette croyance-là est celle des gens de la sunna et des imams du hadith. Ay na'am. Idhan, qad shara'na fi dhikri bab nuzul al-Qur'an. Tayyib. Wa qulna inna al-Qur'an nazala awwala ma nazal 'ala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi laylati al-qadr fi Ramadan. Et on avait commencé donc à évoquer le début du chapitre concernant la descente du Coran. La descente du Coran. Et on avait dit que la première descente du Coran s'est déroulée durant la nuit de Al-Qadr, durant la nuit de la prédestination. Al-Qadr, durant le mois de Ramadan, le mois dans lequel nous sommes actuellement, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos jeûnes et nos prières. Taïeb. فقال المؤلف رحمه الله وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أنس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمحق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سط رجل أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه بالمدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء وكذا رواه مسلم والترمذي وأحمد في مسنده. Donc il dit, la première fois où le Coran a été descendu sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait 40 ans. Il avait 40 ans, comme cela donc est connu de la majorité des gens de science. Il avait donc 40 années, comme cela a été rapporté dans le Sahih de Al-Bukhari, selon Anas radiyallahu anhu. Lorsqu'il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il était rab'a parmi les gens. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait une taille moyenne. Il n'était ni trop grand, ni trop petit. Donc il était de taille moyenne. Puis il dit son teint, il avait un teint qui était azhar. C'est-à-dire qu'il n'était ni trop pâle, ni trop pâle, ni trop mat. Taïeb, il était ni trop blanc, ni mat. Il était azhar, c'est-à-dire que c'était, il était blanc, mais un blanc qui penchait vers le rouge. Taïeb, un blanc qui penche vers le rouge. Ma'am, comme le disent les ulama. Et par rapport à ses cheveux, par rapport à ses cheveux, il dit laysa bija'lin qatatin wala satin rajilin. Il n'avait ni les cheveux yani trop ou très crépus ou très frisés, ni les cheveux très raides, mais entre les deux. Ni les cheveux très crépus, très frisés, ni les cheveux très raides, mais entre les deux. Comme pour sa taille, de taille moyenne, d'une couleur blanche qui penche hein, vers le rouge, et des cheveux aussi, ni crépus, ni raides, entre les deux. Puis il dit, Unzila alayhi, et il a été descendu le Coran, le début, il avait Ibn Arba'in, il avait 40 ans. Et c'est ça l'indicateur du hadith par rapport au chapitre qu'on est en train d'étudier ici, c'est le fait qu'il avait 40 années. Puis il est demeuré à la Mecque 10 années, hein, 10 années pendant lesquelles le Coran continuait à être révélé. Puis il est parti à Médine, Al-Médina, il est resté 10 ans à Al-Médina. Et lorsqu'il est mort, il dit « Wa qubida » sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas ni sur sa tête ni sur sa barbe 20 poils blancs. C'est-à-dire il avait moins que 20 cheveux blancs ou 20 poils blancs sur sa tête et sa barbe sallallahu alayhi wa sallam. Voyez? Donc là on a vu ici que la première fois que le Coran a été descendu sur lui, il avait quel âge? 40 ans. Allahu Akbar. Et j'en profite pour vous annoncer également que comme nous allons bientôt terminer le dimanche le cours de l'Aqidat al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam, de nous rester peut-être un cours ou deux, on commencera par la suite l'explication d'un poème sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, intitulé Al-Urujuza al-Mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariyya. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un poème qui s'intitule Al-Urujuza al-Mi'iyya. Et on étudiera donc le charf, l'explication de Cheikh Abdelrazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Na'am. Thumma yaqul, rahimahullah, wa qad ruwiya an Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, wa Ata'in wa Sa'id ibn Musayyib, wa ghayrihim. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. نعم. Donc il dit le Cheikh, rahimahullah ta'ala, qu'il a été donc rapporté cet âge-là également de Ibn Abbas, de Ata, de Sa'id, Ibn al-Musayyib et d'autres que eux. Et cet âge-là, 40 ans, dit le Cheikh chez l'homme, eh bien c'est l'âge où il va atteindre sa pleine maturité, sa pleine maturité, sa pleine raison, sa pleine rationalité, ainsi que sa pleine raison. Son intelligence sera au maximum à ce moment-là, à la quarantaine. Également, il aura les sens développés à leur paroxysme. Aïna'am. فالذي نزل القرآن نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو جبريل جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام قال الله تعالى عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Donc celui qui est descendu avec le Coran de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est Jibril. C'est l'ange Jibril alayhi salam parmi les anges rapprochés, nobles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah jalla wa ala au sujet de son Coran, de le sens rapproché surat al-Shu'ara, verset 192, il dit c'est certes une descente du Seigneur de l'univers. C'est certes une révélation, une descente, yani, une descente du Coran de la part du Seigneur de l'univers. Et est descendu avec lui Ruh al-Amin, l'esprit fidèle. L'esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam, sur ton cœur, afin que tu sois parmi les avertisseurs. Hein, sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin que tu sois parmi les avertisseurs. Bilisanin arabin mubin. Dans une langue arabe claire. Dans une langue arabe claire. Facile à comprendre. Facile à apprendre. Et dont les sens sont clairs et explicites. Et larges et vastes. Aïna'am. Waqad kana لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحيه إلى رسوله عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وقال جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وقال جل جلاله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا أَوْصَافَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الَّذِي نَزَلَ بِالْقُرْآنِ مِنْ عِنْدِهِ وَتَدُلُّ عَلَى عِظَمِ الْقُرْآنِ وَعِنَايَتِهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يُرْسَلُ مَنْ كَانَ عَظِيمًا إِلَّا بِالْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ بيجي جبريل عليه السلام possède des attributs magnifiques, merveilleux, grandioses, tels que la noblesse, la puissance, la proximité avec Allah Jalla wa Ala, le rang, le degré, le respect que les anges ont pour lui, la fidélité, la beauté, la pureté. Donc tous ces attributs-là font que Jibril alayhi salam est digne. Il est digne d'être le messager d'Allah. Il est digne d'être le messager d'Allah angélique. Celui qui va et qui a révélé la révélation d'Allah sur ses messagers. Alayhimu salatu wassalam. Il dit Allah jalla wa ala à son sujet. Dans le sens rapproché, certes, c'est la parole d'un noble messager. C'est la parole d'un noble messager, c'est-à-dire, c'est le transmetteur, le messager de cette parole-là. Et ce messager, il est comment ? Vikouwa. Possesseur d'une force et auprès du possesseur du trône, c'est-à-dire Allah Jalla wa Ala, il a un rang élevé. Et en plus, il est muta, il est obéi. Thamma amin. Il est obéi dans les cieux, par les anges, les créatures des cieux. Et il est amin. Il est loyal. Il est fidèle. Il ne trahit jamais. Aïna'am. Il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, allamahu shadidul quwa. Il lui a enseigné. Qui est-ce qui a enseigné le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Jibril alayhi salam. Cet ange noble, Shadid al-Quwa, avec qui il était robuste. Robuste et fort. Dhu mirratin fastawa. Et qui possède une beauté physique.
dans la création est parfaite. Fastawa, et il s'est élevé. Wa huwa bil ufuq al a'la, il était à l'horizon suprême. Surat An-Najm. Il dit également Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché du verset, dit, il a descendu l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, Ruh al-Qudus, de la part de ton Seigneur, avec la vérité, afin de raffermir ceux qui ont cru, et en guise de guider, de guide, en guise de bonne annonce pour les musulmans. Donc Allah Jalla wa Ala nous a exposé pour nous les attributs, les caractéristiques de cet ange messager Jibril alayhi salam, qui a donc descendu le Coran avec lui de la part d'Allah Jalla wa Ala. Et cela nous montre la grandeur du Coran. Et cela nous montre le soin et l'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte à sa parole, à cette parole-là qui est le Coran. Car on ne peut envoyer quelqu'un d'aussi grand que Jibril si ce n'est pour transmettre quelque chose de grand aussi, qui est la parole d'Allah Jalla wa Ala. ولهذا قال أهل العلم ولهذا يفرق الرجل بين أن يرسل الخادم ليأتي إليه بخبز من البقالة وبين أن يرسل خادما آخر إلى رئيس أو وزير فيكون الثاني أعظم وأحق من الأول. C'est pour cela qu'il dit le Cheikh Al-Uthaymeen, les gens de science, que la personne, elle fait la différence. Imaginez qu'une personne, elle a plusieurs servants, plusieurs domestiques. Hein? Eh bien, elle fera la différence entre le domestique qu'elle va charger ou qu'elle va envoyer acheter du pain chez l'épicier ou chez la boulanger, le boulanger, taillé, et entre le domestique et le serviteur qu'il va envoyer chez un président ou chez un ministre ou chez un dirigeant. Forcément, on comprendra que le deuxième, celui qui a été envoyé vers le président ou le roi, il est meilleur. Il est meilleur que celui qui a été envoyé acheter du pain. Voyez ? Donc là, on voit ici la grandeur du Coran par rapport à la grandeur de ce messager qui est Jibril alayhi salam. Et on voit la grandeur aussi de Jibril par rapport à la grandeur du Coran. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wallahu a'lam. Fa nantaqilu ila الباب الثاني وهو أول ما نزل من القرآن. قال أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. الآيات الخمس الأولى من سورة العلق وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc on passe au deuxième chapitre intitulé les premières paroles, yani les premières choses qui sont descendues du Coran. Quels sont les premiers versets? Quelles sont les premières paroles qui ont été descendues du Coran, de manière absolue? Il dit le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, ce sont les cinq premiers versets de la sourate Al-Alaq. Les cinq premiers versets de la sourate Al-Alaq. Et ces versets-là, ce sont, dans le sens rapproché du verset ou des versets, lits par le nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain à partir d'un alaq, d'un caillou de sang. Hein? D'un caillou de sang. Lis, et ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allahu Akbar. فأول ما نزل من القرآن ينبغي لنا أن نعرفه لأن من مهمات معرفة المتأخر والمتقدم أنه لماذا لو جرى تعارض لا يمكن الجمع بين يعني بينه علمنا أن المتقدم منسوخ بالمتأخر فلا بد أن نعرف أول ما نزل. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. Pourquoi il est important d'étudier ici les premières paroles qui ont été descendues du Coran? Pourquoi c'est important? À quoi ça sert de savoir que les premiers versets descendus sont les cinq premiers versets de Al-Alaq? Il dit parce que connaître la, entre guillemets, la chronologie dans l'histoire de la descente des versets. Quels versets sont descendus avant? Lesquels sont descendus après? Eh bien, cela, c'est au cas où on trouverait des oppositions entre certains versets. Des oppositions qu'on ne peut pas yani, enlever en réunissant ces versets-là ou en les complétant. On saura par conséquent que le verset qui a été révélé de manière dans la chronologie des versets, celui qui a été révélé avant, eh bien c'est celui qui est abrogé. C'est celui qui a été abrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb. Et il sera donc remplacé dans ce cas-là par le verset qui est descendu après. C'est pour cela qu'il est important, qu'il est obligatoire que l'on connaisse la chronologie de la descente des versets, au cas où certains versets auraient été abrogés par d'autres qui sont révélés après, et car Allah Jalla wa Ala, il fait ce qu'il veut et il supprime, il annule, il affirme, il confirme yani, lui-même ce qu'il veut, comme il le veut, et selon la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma fatara al-wahyu mudda. Thumma nazalat al-ayatul khamsul ula min surat al-muddathir. Wa hiya qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddathir. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم. Puis, après la révélation de ces cinq versets de la sourate Al-Alaq, la révélation s'est interrompue. La révélation s'est interrompue durant un temps. Et après cette interruption-là, eh bien, ont été descendus les cinq premiers versets de la sourate Al-Muddathir. Les cinq premiers versets de la sourate Al-Muddathir. D'accord? Dans lesquels il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, ô toi l'enveloppé d'une couverture, Al-Muddathir, celui qui est enveloppé d'une couverture, lève-toi et avertis, et ton Seigneur glorifie, et tes habits purifie-les. Et on verra yani, ce que veut dire, Inch'Allah ta'ala, tes habits. Certains ulama disent que tes habits ici, c'est-à-dire et tes œuvres, tes actes. D'ailleurs, et tes actes purifilés de tout polythéisme et de tout associationnisme. et éloigne-toi, détourne-toi des idoles. Dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim, selon Aïcha, radiallahu anha, dans le chapitre 2 du début de la révélation, elle dit à Aïcha, jusqu'à ce qu'il soit venu avec la vérité, alors qu'il était dans la grotte de Hira. Dans la grotte de Hira. L'ange vint à lui. C'est qui l'ange? C'est Jibril alayhi salam. Et cet ange-là, il lui a dit, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je ne suis pas lecteur. C'est-à-dire, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Hein, il n'a pas dit ça pour désobéir à Jibril alayhi salam. Mais il a dit ça pour lui faire comprendre que c'est pas quelqu'un qui sait lire ou qui maîtrise la lecture. Taïeb. Ensuite, donc, il a mentionné le hadith. Et dans ce hadith, on a donc la parole de la sourate Al-Alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé jusqu'à sa parole. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Taïeb. Faqala jalla wa ala. اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا عام وإن شئت فقل مطلق خلق الإنسان من علق فذكر ابتداء خلق ابتداء خلق الإنسان لأنه من المناسب جدا في هذا المقام الذي هو ابتداء الشرع فذكر الله جل وعلا ابتداء الخلق وابتداء الشرع ابتداء الخلق خلق الإنسان من علق وابتداء الشرع أن هذا أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الإنسان اسم جنس وهو للعموم أي خلق كل إنسان من علق وفي آيات أخرى أن الله خلقه من نطفة وفي آية أخرى من ماء مهين فكيف عدل في هذه الآية عن النطفة والماء المهين إلى العلق لأن العلق إذا انتقلت النطفة إليه يدل على أن هذا ابتداء خلق الإنسان لأن العلقة عبارة عن دودة حمراء وهذه أول الدم وأول الجسم فلهذا ذكر الله هذا أما قبل ذلك فهو عرضة للفساد. نعم. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé. D'accord? Donc là c'est, il parle d'une création générale. D'ailleurs, c'est pas que la création des êtres humains mais qui a tout créé, yani. Toute créature bien sûr est créé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'il a créé, ensuite il va spécifier et restreindre ici la création en mentionnant l'être humain. خلق الإنسان من علق, qui a créé l'être humain à partir d'un علق. On a dit, علق c'est un caillou de sang. Hein, c'est du sang. فذكره, donc ici là, mentionner le début de la création de l'être humain. C'est quoi le début de la création de l'être humain? C'est ce sang-là. On verra pourquoi il n'a pas cité le liquide spermatique qui vient avant le sang, normalement. Taïeb? Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ici le sang ou le début de la création de l'être humain? Eh bien, tout simplement parce que cela est en adéquation totale avec le contexte. C'est quoi le contexte? C'est le début de la révélation. Le début de la législation de l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la révélation de l'islam avec ce verset-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également le début de la création de l'homme. Le début de la création de la révélation et le début de la création de l'homme. Subhanallah. Donc le début de la création, à travers sa parole, il a créé l'être humain à partir d'un alaq, d'un caillou de sang, d'une adhérence sanguine. Et le début de la législation, le fait que ce soit les premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain à partir de ce sang, ce caillou. D'accord? Donc l'insan, dans la langue arabe, c'est un nom générique, d'accord? Donc qui englobe l'être humain, l'espèce humaine. C'est-à-dire, Allah, c'est lui qui a créé tous les êtres humains à partir de cette chose, l'alaq. On a dans d'autres versets la mention du fait que Allah Jalla wa Ala a créé l'être humain à partir d'un nutfa. Un nutfa, c'est quoi? C'est la goutte. Hein, la goutte du liquide spermatique. Et dans d'autres versets, Allah il parle de la même goutte en disant Al-ma al-mahin, ou en parlant de Al-ma al-mahin, d'une eau vile. Et bien sûr, cette eau vile dont Allah Jalla wa Ala parle, eh bien c'est un autre, c'est la goutte. Vous voyez? Donc, comment yani, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il n'a pas mentionné plutôt la goutte qui normalement vient avant le sang, avant le caillou de sang? Hein? Eh bien, tout simplement parce que al-alaq, ou lorsque cette goutte, elle se transforme en justement en un morceau ou en un caillou de sang, eh bien cette phase, cette transformation au niveau de l'évolution de l'embryon, eh bien nous montre le début de la création humaine. Nous montre vraiment ici le début de la création humaine. Alors qu'avant ça, il n'y a pas de création humaine à proprement parler, parce qu'une goutte de sperme n'est pas à la base un humain. Vous voyez, la création véritable commence à partir de ce caillou de sang. Pourquoi? Parce que ce caillou de sang, il dit, ressemble à un petit ver rouge. Un petit ver rouge. Et cela, c'est le début du sang de l'être humain. Le début du sang, le début de son corps, eh bien c'est ce caillou de sang, subhanallah. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela. Alors qu'avant cette phase de ce sang-là, eh bien, la goutte, elle est fortement, très fortement exposée à la mort, en fait. Hein? Combien de gouttes ne parviennent pas à devenir un embryon, puis un bébé, etc. Énormément, des millions et des millions. Taïeb. C'est pour cela qu'ici, Allah Jalla wa Ala, il a mentionné le sang pour parler du début de la création, le début véritable de la création humaine en adéquation avec le début véritable de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces versets-là de la sourate Al-Alaq. Taïeb. Thumma yaqul, wa fihima an Jabirin رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاهجر وثم آية يقال فيها أول ما نزل والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين فتكون أولية مقيدة مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أولا؟ قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. طيب dans les deux صحيح on trouve un autre hadith rapporté par Jabir رضي الله عنه qui a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم parlait de la période où la révélation s'était interrompue. Hein? Donc retenez bien ce détail, il est important. Il dit que le prophète parlait de la période où la révélation s'était interrompue. Puis il dit, alors que je marchais, j'entendis un son venant du ciel. Puis il a cité le hadith. Et dans ce hadith, hein, il dit, et Allah a descendu les versets de la sourate Al-Muddathir. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis jusqu'à et éloigne-toi des idoles. Éloigne-toi des idoles. Donc ici on a des versets, donc ces cinq versets-là de la sourate Al-Muddathir, hein, donc dans lesquels Allah Jalla wa Ala a donné plusieurs injonctions au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô toi l'enveloppé, lève-toi, avertis, glorifie ton Seigneur, tes œuvres purifie-les et éloigne-toi des idoles. Ça y est ? Eh bien, ces versets-là, on peut dire que ce sont les premiers qui ont été descendus. Mais par rapport à la période d'interruption, c'est-à-dire après la période d'interruption de la révélation, ce furent les premiers versets révélés. D'accord ? Mais de façon absolue, de façon générale, les premiers versets révélés, ce sont ceux de Sourate Al-Alaq. Taïeb ? Donc, ici, c'est une awwaliya, le caractère d'une chose, le caractère premier d'une chose, ici, il est relatif. Il est relatif. Voyez, dans le sens absolu du caractère premier au niveau chronologique, ce sont les versets de la sourate Al-Alaq. Mais dans le sens relatif, par rapport à un moment, on peut dire ici que les cinq premiers versets de la sourate Al-Muddathir, ce sont les premiers versets révélés après l'interruption. Après que la révélation s'était interrompue, eh bien Allah l'a repris, la révélation a repris avec ces versets-là de la sourate Al-Muddathir. D'accord ? On le voit dans le hadith de Jabir, radiallahu anhu, dans les deux sahih, qui a dit que Abu Salama ibn al-Rahman lui a demandé quelle est la première chose qui a été descendue du Coran. Et là, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Jabir ? Il lui a répondu, ô toi, celui qui est enveloppé. Donc il ne lui a pas dit, c'est Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Il lui a dit, c'est ô toi, celui qui est enveloppé. Puis qu'est-ce qu'il lui a répondu, Abu Salama ? Il lui a répondu, moi, on m'a informé que c'était, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Vous voyez ? Donc là, et qu'est-ce qu'il a rétorqué, donc, Jabir ? Par la suite, il a dit, je ne te dis que ce qu'il m'a dit, ou que ce qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Il a dit, j'étais dans la grotte de Hira, Hein? Puis lorsque j'ai terminé, je suis redescendu. Puis il a cité le hadith et il a dit, et je suis allé donc chez Khadija, donc chez son épouse Khadija, radiallahu anha, et il lui a dit, enveloppe-moi et verse de l'eau froide sur moi. Enveloppe-moi et verse de l'eau froide sur moi. Taïeb. Donc ça c'était après la révélation de Ya ayyuhal muddathir. Ô toi l'enveloppé. Hein? Et quand il est, donc, quand il est rentré chez lui, il avait, avec les émotions énormes de la révélation, il a dit à son épouse, couvre-moi et verse de l'eau froide sur moi. Vous voyez, et là il a dit à son épouse, il m'a été descendu, ô toi celui qui est enveloppé jusqu'à la parole d'Allah, et éloigne-toi des idoles. Vous voyez, donc là on voit donc que la parole de Jabir, radiallahu anhu, concerne les premiers versets après l'interruption de la révélation. Alors que Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, lit au nom de ton Seigneur qui a créé, eh bien c'est les premiers versets de manière absolue, hein, qui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam un prophète. Donc le caractère premier de ces versets-là, cité par Jabir, est relatif à ce qui a été révélé, yani après l'interruption de la révélation. Et relatif aussi au statut de messager de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ce qui a été descendu de la sourate Al-Alaq, on a dans ces versets-là l'affirmation de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dans la sourate Al-Muddathir, on a l'affirmation du statut de messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam en vertu du fait qu'Allah lui a dit « Lève-toi et avertis. Hein? » Donc certains ulama disent que quand Allah lui a dit « Lève-toi et avertis », à ce moment-là, le prophète est devenu messager. Le prophète est devenu messager. C'est pour ça que certains parmi les gens de science, ils disent que le prophète est devenu prophète lorsqu'Allah lui a dit « Iqra, lis ». Il est devenu messager lorsqu'Allah lui a dit « Lève-toi et avertis ». Car comme vous savez, tout prophète n'est pas forcément messager. Mais tout messager est un prophète. Wallahu ta'ala a'alam. Alhamdulillah, naktafi bihadha al-qadr. On s'arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on poursuivra la semaine prochaine. Et on commencera donc le chapitre 3 concernant la descente du Coran. Une descente qui peut être ibtida'i ou sababi. Une descente qui peut être initiale ou causé par quelque chose, causé par un événement particulier ou spécifique. Alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite le jeûne et nos prières et qu'il nous les accepte. Wa l'ilmu indallah wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama taslima fa barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.